vient par un petit geste de déclencher un mouvement qui va chambouler l'Europe. Il vient de placarder sur la porte de l'église de Wittenberg une affiche, le 31 octobre 1517. Ce n'est pas le fait de poser une affiche sur une porte d'église. Les portes des églises, c'était un petit peu le média populaire de l'époque. Mais c'était ce qui avait marqué sur cette affiche qui a bousculé l'Europe. Luther, qui était soucieux de son salut éternel, vient de découvrir, en lisant l'Épître aux Romains, que le chrétien était sauvé, justifié par la seule grâce de Dieu, par le moyen de la foi seule. Luther vient de découvrir que par l'Écriture seule, que son salut venait de Jésus-Christ seul. Ce n'est pas par les œuvres que l'on pouvait être sauvé, mais en mettant sa confiance en Jésus-Christ. Alors cette affiche placarde 95 thèses dirigées contre certaines pratiques du catholicisme de son époque, qui disaient qu'on pouvait, je le dis rapidement, comme cela, acheter, monnayer son salut ou celui de ses proches. Ce petit geste est le point de départ de la réforme protestante. Un petit geste, vous voyez, qui peut changer beaucoup, beaucoup de choses. On peut résumer l'enseignement biblique de la réforme en 5 petites phrases qui sont là, affichées. Je vous l'ai dit pour mémoire, comme ça peut-être vous vous en rappellerez. Donc c'est 5 petits slogans, 5 solas en latin, sola scriptura, par l'écriture seulement, l'écriture est la seule autorité dans la vie du chrétien, sola gratia, par la grâce seulement, nous ne méritons rien, c'est le Seigneur qui nous sauve gratuitement, par grâce, sola fide, par la foi seulement et non par les œuvres, solus Christus, par Jésus-Christ seulement et par rien et ni personne d'autre, soli deo gloria, tout cela pour la seule gloire de Dieu, tout vient de lui, tout vient par lui et tout vient pour lui. Alors voilà, c'était ma petite page d'histoire ce matin, mon éphéméride, mais vous allez voir quand même que ce n'est pas sans rapport avec le texte de l'Écriture que nous allons lire ce matin ensemble. Nous allons continuer notre méditation du sermon sur la montagne. Peu à peu, nous avançons et je nous encourage, ensemble et chez nous, à en faire notre lecture personnelle, d'y revenir souvent durant ce trimestre. Parce que, comme je l'avais dit la première fois, il s'agit de la feuille de route du chrétien. C'est notre feuille de route et on doit tout le temps, souvent, chaque fois que c'est possible, revenir dessus, sur cette feuille de route. Alors, je vous rappelle, Jésus s'assoit, il est sur une montagne, une colline, disons. Toute colline est appelée une montagne en Israël. Il n'y a pas beaucoup de hauts sommets, à part l'Hermon, tout à fait dans le nord. Et là, la foule s'assemble, mais ses disciples s'approchent de lui, plus particulièrement, et Jésus s'adresse à ses disciples. Il parle avec autorité, c'est le Seigneur qui parle, et les disciples sont appelés à l'écouter, vraiment comme le Seigneur ayant toute autorité. Et les disciples, 2000 ans après, c'est nous. Et je nous invite à avoir toujours la même posture lorsqu'on voit avec l'Écriture, quand Jésus s'adresse à nous, de dire c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Pas simplement un ami, pas simplement quelqu'un qui a une certaine connaissance, mais le Seigneur qui parle. C'est lui qui parle avec autorité. Alors merci pour les apports de Fred et de Loïc les semaines précédentes. Ils ont mis en lumière les difficultés que nous avons face à la loi de Christ. Loïc s'était arrêté au verset 47 du chapitre 5. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. » Et alors, je vous propose de relire et de prendre le texte à partir du verset 43 du chapitre 5. Et puis, on va dérouler jusqu'au verset 18 du chapitre 6. Puisque je suis dans la réforme protestante, certains prédicateurs, avant de lire la Bible, annoncent lecture de la parole de Dieu. Ça fait très liturgique, on n'a pas trop l'habitude chez nous, mais c'est une vérité. Nous allons lire non pas la parole de Norbert, nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, si vous me permettez, lecture de la parole de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs des taxes eux-mêmes ne font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas pour autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos offenses, comme nous aussi nous l'avons fait à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen. Je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Nous l'avons entendue avec nos oreilles. Que ton Esprit, que ton Saint-Esprit vienne l'inscrire sur nos cœurs. Aide-nous à la pratiquer. Amen. Jésus continue à nous lancer des défis. On ne peut pas lire et ou écouter le serment sur la montagne et en ressortir paisible, du moins immédiatement. Avec les béatitudes, Jésus décrit ce que devait être le caractère du disciple et nous sommes impactés par les critères élevés de ce qu'il attend de nous. Qui peut dire qu'il est miséricordieux, pauvre en esprit, pur de cœur, doux en toutes circonstances, se réjouissant même des persécutions ? Quelqu'un peut-il ici le dire ? Qu'il se lève. Et puis après, Jésus nous tense dans notre témoignage. On ne doit pas être sous le boisseau, ni perdre notre saveur, parce que nous sommes sel et lumière. Jésus nous impacte. Est-ce que vous êtes encore sel ? Est-ce que vous êtes encore lumière ? Est-ce que vous êtes sur la montagne ou est-ce que vous êtes sous le boisseau ? Jésus nous a continué à nous secouer dans notre éthique, dans notre façon de vivre et de nous comporter. et son éthique, on peut dire, elle est vraiment haute. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors il ne suffit pas de ne pas commettre de meurtre, mais aussi de ne pas se mettre en colère contre son frère et de ne pas l'insulter. Bon, on n'insulte pas hein, ici, chez nous. Des fois, on a quelques mots, mais ce n'est pas des insultes. Il ne suffit pas de ne pas commettre d'adultère, mais aussi de ne pas convoiter dans son cœur. Et si le commandement te permettait de rendre coup sur coup, l'éthique de Jésus te demande de tendre l'autre joue et ne pas te défendre. Et là, ce que nous venons de lire, il ne suffit pas d'aimer ses amis, il faut aimer aussi même ses ennemis. À l'amour ordinaire que tous éprouvent, même les païens, il nous faut aimer de manière extraordinaire. Et Jésus nous challenge, nous lance ce défi. Il interroge ses disciples 2000 ans en arrière, il nous interroge à nous aujourd'hui. Que faites-vous d'extraordinaire ? Alors il n'attend pas de réponse, c'est une question rhétorique, mais la question souligne l'impératif. Nous sommes appelés à accomplir des choses extraordinaires en tant que disciples de Christ. Et la conclusion de cette partie exigeante se termine par un appel à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, selon le standard du Père céleste. Voilà. Jean-Louis disait souvent que nous étions des extraterrestres. Hein ? Et je le crois. Nous sommes nés d'en haut, du ciel, nous sommes sur Terre, ce qu'on appelle les extraterrestres. Nous sommes des extraterrestres. Nous recevons une vie qui n'est pas notre. Nous hébergeons dans notre cœur un hôte exigeant. C'est très, très science-fiction, hein, ça. Hein, extraterrestre. Le Saint-Esprit, Dieu, est venu habiter dans notre cœur. Et c'est cet Esprit Saint qui met des aspirations dans nos vies et qui nous donne des forces peu à peu pour les accomplir. J'ai beaucoup aimé le chant que nous avons chanté ce matin, les choses d'antan, là. Alors, je me rappelle quand j'étais jeune que je courais. Bon, j'avais 15 ans, j'en ai 63 maintenant. Mais Seigneur, donne-moi les mêmes aspirations, donne-moi la même passion, donne-moi la même force pour courir. Que je sois, que j'ai 17 ans, 15 ans, 18 ans, que je sois jeune comme toi, que je sois vieux comme moi, je le suis. Que j'ai toujours gardé la même passion pour Jésus-Christ. Hein. Voyez-vous, on peut parfois baisser les bras devant notre feuille de route, c'est vrai. Ce que Jésus nous dit, c'est là. Quand je lis ce que Jésus dit, ce n'est pas vraiment le découragement qui s'installe en moi de manière durable. Des fois, je me sens dépassé par ce que je viens de lire. Mais ce qui habite en moi, ce que je ressens au plus profond, c'est vraiment le désir de vivre de manière extraordinaire dans la conformité de mon Père céleste. Et je pense que vous avez tous ressenti ça quand je vous ai lu ce texte. Seigneur, c'est vrai, c'est haut ce que tu me demandes, mais il y a en moi cette aspiration à le vivre. Que la lecture de ce texte ne vous fasse pas dire « Seigneur, je n'y arrive pas, je renonce ». Mais au contraire, que la lecture de ce texte vous fasse dire « Seigneur, je veux être comme ça. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux faire ta volonté, ce que tu me demandes d'être. Je veux que tu me changes dans mon caractère. Je veux que tu me changes dans mes relations. Je veux que tu me donnes une vie authentique. J'espère que c'est ce que vous avez ressenti à la lecture du texte. Je crois qu'il est possible de grandir dans toutes les caractéristiques du sermon sur la montagne. Alors, bien sûr, de manière progressive, pas du jour au lendemain, à mesure. La mesure, c'est la communion que nous avons avec le Seigneur. Il est le cep, nous sommes les sarments, sans lui on ne peut rien faire. Je vais grandir dans l'esprit du sermon sur la montagne à la mesure de ma communion avec le Seigneur. Et Jésus nous a confié son dépôt, le dépôt de l'Évangile. Confier, ça veut dire faire confiance. Jésus nous fait confiance de ce que nous allons marcher sur cette feuille de route. N'est-ce pas extraordinaire ? Alors moi, quand je me regarde moi dans la glace, que je regarde mes imperfections, mes difficultés à vivre le sermon sur la montagne, je me décourage effectivement. Et puis je dis, Seigneur, pourtant, si tu l'as dit, ce n'est pas pour m'écraser. Si tu l'as dit, c'est pour me faire relever la tête et pour aspirer à y vivre. Ça, c'est la bonne attitude devant le sermon sur la montagne. OK ? Alors, n'abandonnez jamais la feuille de route. Même si les critères sont hauts, le Seigneur vous fait confiance. Même si les critères sont très hauts, le Seigneur nous fait confiance. Il nous l'a confié. C'est notre feuille de route. Si tu tombes, si tu pêches, si tu laisses sur ta route, non, c'est pas ça, tu peux te relever. N'abandonne pas. Autre chose avant d'aller plus loin. Nous en sommes à des stades différents dans cette marche, dans cette feuille de route. Et parfois vient la tentation de nous comparer les uns aux autres. Et puis cette comparaison vient peut-être alimenter un alibi pour ne pas marcher sur cette feuille de route. Et au contraire, mes amis, nous avons à nous encourager les uns les autres à y marcher. Sans nous juger, sans nous jauger les uns les autres. Plus tard, Jésus va nous apprendre à faire le ménage en nous avant de vouloir faire le ménage chez les autres. Il va falloir apprendre à enlever la poutre qui est sur notre œil avant d'enlever la poussière. Mais ça, je crois que c'est David qui en parle, non ? C'est pas toi ? Bon, je ne sais plus qui, peut-être Vincent, voilà. Le Seigneur va apprendre à nous faire le ménage, à nous faire le ménage chez nous. Alors Jésus parle maintenant de trois pratiques spirituelles ou de piété. Pratique de la justice, ou les actes de compassion, ou l'aumône, ou le don. On trouve ces quatre versions dans le sermon sur la montagne. Et puis la prière et le jeûne. Trois actes de piété sur lesquels Jésus nous invite à porter les regards. Jésus ne nous dit certainement pas de ne plus les pratiquer, mais il nous dit comment il faut les pratiquer, quelle est la bonne manière de les pratiquer. Parce que ces pratiques peuvent avoir l'apparence de la spiritualité ou de la piété, mais ne sont pas dans le fond de la spiritualité. Jésus va appeler ses disciples à vivre une vie authentique. Une vie authentique. Jésus va mettre en lumière les motivations qui déterminent si, oui ou non, nos pratiques de piété sont effectivement des actes de piété. Il n'y a rien qui ressemble à la véritable piété que l'apparence de la piété. Ça ressemble de manière extérieure, mais le fond n'est pas là. Et l'apôtre Paul va mettre en garde Timothée dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 3, verset 5. Il va mettre en garde Timothée contre des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas le fond de la piété. Et c'est ce dont Jésus nous parle maintenant. Alors regardons de plus près le texte. Et vous voyez que le texte est un peu sur le même modèle. Quand tu donnes ou fais un acte de compassion, ou selon les versions, quand tu fais l'aumône, ou quand tu donnes, ou quand tu pratiques ta justice, dans un second texte, quand tu pries, troisième texte, quand tu jeûnes, ne sois pas comme les hypocrites. Où ils sont, les hypocrites ? Dans la rue, dans les synagogues, dans les coins des grandes rues même. Quelle est leur motivation ? Pour être glorifiés par les gens, pour se montrer aux gens, pour montrer qu'ils jeûnent, dans les trois textes. Et là, Jésus, chaque fois, répète, ils tiennent là leur récompense, pour l'aumône, les actes de compassion. Ils tiennent leur récompense lorsqu'ils prient. Ils tiennent leur récompense lorsqu'ils jeûnent. Mais toi, c'est-à-dire nous, toi, moi, quand tu fais un acte de compassion, quand tu pries, quand tu jeûnes, eh bien, fais-le dans le secret. Dans le secret, quand tu pries. Dans le secret, quand tu jeûnes. Dans le secret, quand tu fais un acte de compassion. Et qu'est-ce qui se passe ? Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra pour les aumônes. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra quand tu es dans ta chambre la plus reculée. Et ton Père, qui voit là dans le secret, te le rendra lorsque tu jeûnes. Jésus s'attaque à l'authenticité. Et il veut détruire l'apparence. Comment définir l'apparence ? C'est quand tu n'es pas en privé ce que tu veux faire paraître en public. Ça va, c'était 4 heures du matin quand j'ai fait cette phrase. Ça va, c'est français, ça ? Vous avez tous compris ? C'est quand tu n'es pas en privé ce que tu veux faire paraître en public. Les hypocrites sont comme cela. Ils ont une attitude différente dans le public et dans le secret. Ils ont une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qui se trouve dans le cœur. Évidemment, personne n'échappe à ce jeu. On a tous envie de vouloir être un peu plus que ce que nous ne sommes pas. Je voudrais paraître plus intelligent. Moi, je parle pour moi. On fait parfois aussi bonne figure. On est en colère intérieurement et puis on fait un grand sourire comme ça. On est parfois angoissé intérieurement et puis on dit à quelqu'un qui nous demande comment ça va et on dit ben, ça va bien. Ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Il parle d'une attitude fondamentale, continue dans le temps, un mode de fonctionnement. Il travaille, il veut mettre en exergue ce manque d'authenticité qui habite parfois certains. Quant à nous, nous qui nous mettons à son école, ben il nous a pris en charge et il travaille en nous afin que public et privé soient en adéquation. Je passe sur l'apparence. Jésus va aussi articuler sur la motivation. Jésus montre ce qui pousse les hypocrites à avoir une telle attitude. C'est bien marqué ainsi. Les hypocrites font des actes de compassion, prient et jeûnent. Mais leur but, c'est quoi ? La gloire humaine, être glorifié par les hommes, être vu par les hommes. Ils ont à garder une attitude pieuse qui peut donner le change sans garder la signification de ses actes. C'est incroyable, ça. C'est piégeant, je trouve. Ils ont déraciné la compassion du sujet de la compassion. Ils ont déraciné la prière de l'objet de la prière. Ils ont déraciné le jeûne du sujet du jeûne. Quand tu fais un acte de compassion, qui est au centre de l'acte de compassion ? L'autre. Eh bien, l'hypocrite se place au centre de l'acte de compassion. Quand tu pries, quel est le centre de ta prière ? Le Seigneur. Mais eux, quand ils prient, c'est eux qui sont le centre. Quand tu jeûnes, c'est qui au centre de ton jeûne ? c'est le Seigneur, mais eux, c'est eux-mêmes qui sont le centre de leur jeûne. Incroyable. On avait une première ministre, c'était une dame qui s'appelait Michèle Barzac, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Le paravent des égoïsmes ». Elle était aussi membre de l'UNICEF et elle appelait à la générosité, bien sûr, etc. Et elle a écrit un bouquin pour dénoncer les gens qui donnent, donc qui font des actes de compassion, mais en fait pour se débarrasser de la pauvreté, de la misère. Pas pour se soucier de ceux dont on doit avoir besoin. Ceux qui ont besoin, excusez-moi. Les hypocrites déconnectent. Ça, c'est pour parler un peu jeune. Déconnectent. Ça, c'est un vocabulaire de maintenant. Hein. Déconnectent. L'acte de compassion, la prière et le jeûne de leur but premier. Et alors, ils ont leur récompense. Ils sont approuvés des hommes, reconnus des hommes. C'est ça, leur récompense. Ils ont fait des actes de compassion pour être vus des hommes, pour être glorifiés par les hommes. Et nous, qui sommes autour, dont nous ne jugeons simplement que l'apparence, on me disait, mais, ouais, c'est super ce qu'ils ont fait. Ils ont leur récompense. Ils ont simplement la reconnaissance des hommes qui sont autour d'eux, qui voient ce qu'ils font. Quant aux disciples qui écoutent, ceux qui font des actes de compassion, qui prient et qui jeûnent, eh bien, c'est pour le Seigneur qu'ils le font. C'est pour glorifier le Seigneur. Et là, le Seigneur le dit, ton Père te le rendra. Et c'est là notre récompense. Parlons de récompense vite fait. À cause de la sola gratia dont nous avons parlé tout à l'heure, nous, protestants évangéliques, on a du mal avec le mot récompense. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait toujours bizarre. Ne serait-ce pas le salut par les œuvres qui s'infiltrent ici? Et puis, parce qu'on veut être beaucoup plus évangélique que l'Évangile, on dit, mais non, si je fais quelque chose, c'est vraiment gratuitement. On peut faire des choses de toute façon de manière gratuite. Jésus emploie le mot récompense aussi pour nous, lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu. Certains ont parlé de la récompense comme de quelque chose de très matériel. Si tu fais un don, Dieu te redonne au centuple, d'une manière ou d'une autre. Pierre se mit à dire, « Voici, nous avons tout quitté pour toi et nous t'avons suivi. » Et Jésus répond, « Je te le dis en vérité, une des personnes qui ont quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, il rajoute Jésus. Ça, c'est pour un peu enlever ce qui est peut-être de l'ordre de la théologie de la prospérité, vous voyez, hein ? Merci Seigneur pour ce petit verset pour nous. Voilà. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, effectivement, il y aura certainement des trésors dans le ciel qui nous attendent. Et déjà des trésors sur terre. Vous êtes des trésors, mes amis, pour moi. Certains ont parlé des couronnes qui nous sont réservées en termes de récompense. Couronne de vie, couronne de justice, couronne de gloire. Mais voilà mon explication. Et là, je me soumets à vous. Hein. Vous pouvez me dire, Robert, tu as tort. Je reçois ça. Hein. Voilà. La récompense que nous devons attendre de Dieu, eh bien, c'est le fruit de ton action, le propre fruit de ton action. C'est le sourire retrouvé que tu vois sur le visage de celui qui reçoit incognito un don. C'est toi qui l'as fait, personne ne le sait, ta main droite ni ta main gauche. Enfin, si, c'est ta main droite, mais pas la main gauche. Tu n'as pas besoin de le claironner, tu n'as pas besoin de faire des trompettes, mais tu vois un sourire. Eh bien, ça, c'est la récompense que tu peux avoir. C'est aussi la présence de Dieu qui est là et que Dieu te promet lorsque tu es dans le secret de ta chambre. La présence de Dieu Ton Père est là, dans le secret de ta chambre. Quand tu jeûnes, ton Père est là. C'est la récompense de ton action, n'est-ce pas ? Hébreux 11, lorsqu'il parle de la foi d'Enoch, il nous est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais que Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, rémunération, récompense. Incroyable ça, hein ? Le Seigneur se laisse trouver. Allez, je vais bientôt conclure. Dietrich Bonhoeffer, ça c'est, je vole les citations de Fred Perrier, qui aime bien le citer, et moi aussi c'est un auteur que j'aime bien, mais Dietrich Bonhoeffer c'est un coquin. Il va plus loin que Jésus, je trouve, des fois. Il met le doigt sur quelque chose de juste, et il dit quelque chose d'approchant. Je n'ai pas retrouvé la citation, donc je dis de mémoire. Tu peux être dans le lieu secret. Tu peux être dans le lieu secret, mais tu en fais tout un spectacle, rien que pour toi. Tu es l'unique spectateur de ton lieu secret. Il n'y a pas besoin d'une grande foule pour être admiré des gens. Tu peux admirer ta spiritualité. Tu peux dire, Seigneur, regarde comme j'ai bien prié. Regarde, Seigneur, comme j'ai bien jeûné. Regarde, Seigneur, comme j'ai bien donné. Voilà. Et là, tu te complais dans ta propre justice. Et là, tu as ta propre récompense. Alors, méfions-nous, hein, parce que même nos bonnes attitudes spirituelles, parfois, qu'est-ce qu'elles sont piégeantes ? Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Alors, je reviens pour conclure sur nos actes de justice publique et l'espace privé. Jésus ne prévoit pas que nous soyons toujours que dans notre lieu secret. Il y a la manifestation publique de ce qui se passe dans notre lieu secret. Et c'est comme ça que cela devrait être fait. Et Jésus va conclure, il a dit avant, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Non pas qu'il vous glorifie, vous, mais qu'il glorifie le Père. Amen. Allez, soyez bénis.